Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Sécularisation, pauvreté, narcotrafic, les défis du continent latino-américain sont nombreux. C'est ce qu'a rappelé Benoît XVI dimanche soir dans la basilique Saint-Pierre lors de la messe d'inauguration du congrès Ecclesia in America. L'église italienne monte au créneau pour défendre le bilan de Mario Monti. Le chef du gouvernement italien a annoncé sa démission prochaine. L'épiscopat s'inquiète pour la cohésion sociale du pays et demande de ne pas réduire à néant les sacrifices déjà engagés. Dans ce magazine, nous vous parlerons aussi de cette avancée dans les pourparlers de paix en Casamance après la libération ce week-end de plusieurs soldats de l'armée sénégalaise. Et puis, le petit Nicolas se lit désormais en latin pour les nostalgiques. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Ce dimanche soir, dans la basilique Vatican, le pape a salué les participants au congrès international Ecclesia in America, un congrès organisé par la Commission pontificale pour l'Amérique latine et les chevaliers de Colomb. Benoît XVI s'est rendu dans la basilique pendant la célébration de la messe d'inauguration du congrès présidé par le cardinal Ouellette. Le cardinal Ouellette, préfet de la congrégation pour les évêques et également président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Dans son discours, le pape a rappelé les très nombreux défis du continent américain, sécularisation, pauvreté ou encore narcotrafic, en invitant les fidèles à la nouvelle évangélisation basée sur l'amour et la vérité du Christ. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
C'est sans détour que le pape a mis en exergue les problèmes rencontrés aujourd'hui par le continent américain. Benoît XVI, s'exprimant d'abord en espagnol, a rappelé la douloureuse situation de l'Amérique latine, l'émigration, la violence, la corruption, le commerce des armes, la pauvreté causée par des systèmes économiques, politiques et sociaux discutables. Ces questions importantes qui suscitent la préoccupation de l'Église méritent d'être étudiées avec attention, a insisté le pape. Dans ce contexte, l'Église est convaincue que la lumière d'une solution à ne doit pas être recherché seulement sur le plan technique, mais exige une rencontre avec le Christ vivant conduisant à des attitudes fondées sur l'amour et la vérité. Ainsi, Benoît XVI a invité les participants au congrès à proclamer sans réserve, librement et avec enthousiasme, l'évangile en Amérique, car il n'y a pas d'œuvre plus gratifiante et de service plus grand pour ceux qui ont soif de Dieu. Pour cela, il est essentiel, à noter le pape, que tous les agents pastoraux soient purifiés et fortifiés dans leur vie intérieure. Pour y parvenir, ils doivent passer par une relation sincère avec le Seigneur, une catéchèse adéquate et l'apprentissage continu de la parole de Dieu et du magistère de l'Église afin de répondre aux questions et aspirations les plus profondes du cœur humain.
Le congrès international Ecclesia in America se tiendra dans la salle du Synode au Vatican jusqu'à mercredi 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, la mère de toute l'Amérique. Sachez que le cardinal Ouellette a lancé un appel de conversion, de communion et de solidarité à l'Église américaine, soulignant l'importance de rester fidèle au courage des missionnaires, des saints et des martyrs qui ont fait de l'Amérique une terre sainte où vivent désormais plus de la moitié des catholiques du monde. Le cardinal Ouellette que vous pourrez entendre dans ce magazine jeudi prochain. Les évêques italiens s'inquiètent de la démission prochaine de Mario Monti. Dans un entretien publié ce lundi par le quotidien milanais Corriere della Sera, le président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Bagnasco, voit la fin anticipée d'une législature comme un signal très négatif pour la politique et pour le pays. Le cardinal Bagnasco qui demande de ne pas réduire à néant les sacrifices d'une année. Bernard de Cotigny.
Les mots sont tranchants et sans ambiguïté. L'Église est abasourdie par l'irresponsabilité de certains hommes politiques italiens qui pensent à s'installer alors que la maison brûle encore, a dénoncé le chef des évêques italiens dans une critique indirecte à Silvio Berlusconi. Cela confirme l'enracinement d'une crise qui n'est pas seulement économique, mais culturelle et morale, a-t-il ajouté. Depuis un an, souligne encore l'archevêque de Gênes, le gouvernement technique a mis à l'abri le pays de capitulations humiliantes et hautement risquées, prenant ainsi implicitement la défense du bilan du gouvernement de technicien de Mario Monti. Pour le président de la conférence épiscopale italienne, il faut laisser à l'Italie le temps de cueillir les fruits de la politique de rigueur et l'on ne peut réduire à néant les sacrifices d'un an qui sont souvent retombés sur les couches les plus fragiles de la population, explique-t-il, en référence au programme de rigueur du gouvernement Monti qui a imposé de lourds sacrifices, notamment en matière fiscale aux classes moyennes, en vue d'assainir le pays. Avec le même ton vif, le cardinal Bagnasco égratigne aussi les partis politiques italiens. Pendant trop longtemps, déplore-t-il, ces partis ont été incapables de parvenir à des décisions difficiles et de parler ce langage de la franchise et non celui de la démagogie facile.
Le père jésuite Paolo Dall'Olio, fondateur de la communauté monastique de Der Marmoussa en Syrie, prend désormais pied dans le Kurdistan irakien, une information donnée par l'agence de presse Fides. Après son expulsion de la Syrie, le père Dall'Olio a été accueilli au sein de la nouvelle fondation monastique de Der Mariam el-Adara, existant depuis quelques mois seulement à Souleymaniye, dans le nord de l'Irak. C'est l'archevêque chaldéen de Kirkouk, Mgr Louis Sacco, qui a donné son accord à l'entrée du jésuite islamologue au sein de cette communauté monastique. Une communauté qui se trouve dans une église de la seconde moitié du XIXe siècle dédiée à la Très Sainte Vierge Marie dans le quartier historique de Sambunkaran, connu comme le quartier des fabricants de savon. Souleymaniye est une ville kurde musulmane au sein de laquelle vit une importante communauté chrétienne. Elle se situe surtout dans la partie la plus calme de l'Irak. Le père Paolo Dall'Olio avait été expulsé en juin dernier de Syrie en obéissance envers les autorités ecclésiastiques du pays. Le 20 septembre, le ministère des Affaires étrangères syrien avait accusé le jésuite de connivence avec des groupes terroristes, avec les frères du monastère de Der Mariam, a indiqué le jésuite à l'agence Fides. Je prierai pour la paix en Syrie, dans l'espoir et dans l'attente de pouvoir un jour y retourner. C'est un geste positif en faveur des pourparlers de paix en Casamance. Le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance, a libéré samedi dernier plusieurs soldats de l'armée sénégalaise. Une libération qui est intervenue grâce au rôle joué par la communauté Saint-Egidio, médiatrice dans la crise qui oppose depuis 1983 le gouvernement sénégalais au mouvement rebelle qui réclame l'indépendance de cette région du sud du pays. Les otages ont été remis aux autorités gambiennes par une délégation du MFDC conduite par l'un de ses chefs militaires, Salif Sadio, en présence de représentants du Comité international de la Croix-Rouge. Le MFDC et les autorités sénégalaises s'étaient rencontrés le 14 octobre dernier au siège de Sant'Egidio à Rome. Pour la communauté, cette libération revêt une importance fondamentale pour une résolution pacifique de la crise casamançaise. C'est également l'avis du cardinal Théodore Adrien Sarr, l'archevêque de Dakar. Il avait accepté il y a un an, à la demande du MFDC, de jouer un rôle de facilitateur pour le dialogue avec le gouvernement en vue d'un cessez-le-feu.
C'est vraiment une bonne nouvelle pour tous les Sénégalais. En tout cas, personnellement, je m'en réjouis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment une cause de soulagement et également une cause d'espérance. Parce que nous pensons qu'effectivement, c'est un geste très positif qui laisse augurer que la volonté de dialogue que le nouveau président de la République du Sénégal a tout de suite manifestée dès son accession au pouvoir, et également la volonté de dialogue manifestée par M. Salif Sadio qui détenait ses otages, tout cela, c'est vraiment des engagements réels, des volontés réelles qui se concrétisent dans les faits. Donc cela nous laisse augurer que le début de négociation qui se fait discrètement pourra se poursuivre et donc aboutira vraiment à cette paix définitive en Casamance que nous appelons tous de tous nos voeux.
Cette libération fait suite à des pourparlers entre le MFDC et les autorités sénégalaises au siège de la communauté Sant'Egidio, médiateur dans cette crise. C'est donc un premier pas.
C'est un premier pas. Enfin, disons, il y avait déjà donc ces contacts préliminaires entre une délégation du gouvernement du Sénégal et une délégation du mouvement de Salif Sadio devant la communauté Sant'Egidio comme témoin à Rome. Donc c'était que vraiment des préliminaires, mais vraiment ce geste, encore une fois, qui vient de se produire, est vraiment une grande première étape qui permettra la poursuite des négociations et certainement leur aboutissement, nous le croyons très fermement. Par ailleurs aussi, il y a une deuxième aile du mouvement du MFDC qu'il faut contacter. Je sais aussi que c'est en bonne voie pour que le contact soit établi. Et si donc les deux ailes principales du mouvement du MFDC sont contactées et engagent le dialogue, nous espérons vraiment de tout cœur et avec l'aide de Dieu que la paix en Casamance est vraiment sur le bon chemin et que bientôt elle sera réalité.
Qui sont les acteurs qui représentent le MFDC et quelles sont les divisions qu'il peut y avoir au sein du mouvement?
Il y a une aile du mouvement qui est avec Salih Sadio, une autre aile qui est avec un certain César Badiat. Mais c'est de ces deux ailes principales dont je parle. Je pense que vraiment bientôt donc le contact sera établi avec la deuxième aile. Et je sais qu'elle est disposée à dialoguer aussi. Alors si vraiment les deux ailes principales du mouvement MFDC se mettent à dialoguer avec le gouvernement du Sénégal, je pense que vraiment nous sommes sur le bon chemin de la paix.
Le conflit en Casamance est l'un des plus vieux conflits armés d'Afrique. Sur quelle base les deux parties peuvent-elles commencer à discuter?
Sur la base simplement d'abord de cesser le feu et deuxièmement dialoguer sur simplement... L'aile qui parle d'indépendance dit qu'elle ne renonce pas, mais bon, quand on va dans un dialogue, on peut toujours présenter ses prétentions. Mais le dialogue permettra vraiment d'arriver à ce qui est possible. Donc je sais que du côté du gouvernement du Sénégal, tout président de la République a toujours dit qu'il n'est pas question de mettre en cause l'unité nationale. Mais je pense que vraiment, à travers des négociations, on arrivera à trouver un terrain d'entente satisfaisant pour les uns et les autres, pour que la paix puisse être signée.
En janvier dernier, vous aviez déclaré avoir accepté la demande du MFDC de jouer un rôle de facilitateur pour le dialogue avec le gouvernement en vue d'un cessez-le-feu. Depuis un an, en quoi a consisté ce rôle?
Ce rôle a consisté essentiellement, effectivement, aller au nom de cette fraction qui m'avait demandé avec l'imam de Bignona de jouer ce rôle de facilitateur, nous adresser à la présidence du Sénégal. On n'a pas toujours eu satisfaction sur tout ce que nous demandions, mais avec le changement donc au niveau de la présidence du Sénégal, je pense que nous avons là plus clairement une volonté de dialogue, une volonté de négociation pour aboutir à la paix qui est plus claire, plus nette et plus déterminée. Donc je pense que il y a eu un ralentissement dans notre mission, mais elle est reprise et nous pensons vraiment que bientôt quelque chose pourra se concrétiser encore après cette libération.
Vous avez le sentiment que le conflit est à un tournant?
Oui, un vrai tournant. Et je dis toujours à tous ceux que je rencontre et à qui j'en parle, que tout de même, depuis 2 ou 3 ans, nous avons des chances réelles pour la paix qui sont beaucoup plus grandes qu'avant. Parce que les populations de la Casamance elles-mêmes sont les premières à manifester leur lassitude vis-à-vis de ce conflit et les premières à réclamer le retour de la paix en Casamance. Deuxièmement aussi, je peux dire qu'au niveau même des combattants du maquis, il y a aussi une certaine lassitude qui est perceptible et qui fait que vraiment de bonnes négociations doivent permettre que ces gens-là acceptent de pouvoir sortir du maquis, déposer les armes et que la paix soit signée. Donc voilà pourquoi je pense que réellement aujourd'hui, et les chances de la paix en Casamance sont plus grandes que jamais et que nous avons tous le devoir de les saisir pour que la paix soit établie.
C'était le cardinal Théodore Adrien Sarr, archevêque de Dakar, interrogé par Hélène Détombe. Dans le dossier sensible des abus sexuels dans l'Église, la conférence épiscopale allemande a rendu publique la semaine dernière une étude commencée en avril 2011 et qui fait partie de travaux scientifiques lancés après la crise de 2010 et la révélation de centaines de cas d'abus qui remontent des années 50 aux années 80. Forte de ces premiers résultats, l'Église catholique allemande a relevé qu'au moins 66 religieux étaient accusés de centaines d'abus sexuels sur une période de 10 ans, précisant aussi que la majorité n'étaient pas des pédophiles au sens médical du terme. L'évêque de Trèves, Mgr Stéphane Ackermann, chargé par la conférence épiscopale qui regroupe les 27 diocèses allemands, de faire la lumière sur la question, a salué ses premiers résultats dans un communiqué. Mgr Ackermann qui dit voir une pierre importante à l'édifice qui permettra de mener des stratégies de prévention ciblées qui visent à soutenir et sécuriser plus efficacement la protection de l'enfance et de la jeunesse. Les scandales sexuels qui touchent aussi l'île de Malte, 12 victimes d'abus sexuels de la part de membres du clergé dans l'île, ont réclamé réparation à l'Église catholique en donnant un ultimatum d'une semaine au Vatican pour s'exécuter. Les victimes qui ont été abusées par deux prêtres dans un orphelinat dans les années 80 ont présenté leur requête dans une lettre au tribunal civil du Vatican. Leurs agresseurs, Godwin Sherry et Charles Pulis, ont été depuis exclus de l'Église, condamnés également à 11 ans de prison en août 2011 et se trouvent toujours en détention. Mais une cour d'appel a suspendu leur condamnation, ce qui a déclenché la demande des victimes. La lettre a été adressée à deux prêtres, à la société missionnaire de Saint-Paul qui dirige l'orphelinat, l'archidiocèse de Malte, le premier ministre maltais ainsi que le ministre de l'Éducation. Les plaignants accusent les autorités d'avoir eu connaissance des abus et ne pas avoir agi, ce qui a permis aux prêtres de rester en place avec un contrôle complet sur leurs victimes. Les premiers cas de pédophilie ont émergé à Malte en 2003. Un peu plus de légèreté pour conclure ce magazine. Vous connaissez tous les célèbres aventures du petit Nicolas. Plus besoin de lire Cicéron ou d'assister à la messe tridentine pour apprendre le latin, car le petit Nicolas parle désormais la langue de Virgile. Les histoires du célèbre petit garçon, écrites par Jean-Jacques Sempé et René Goscinny, ont désormais leur version latine, Poulus Nicolelus, tel est leur titre. Publiée aux éditions IMAV, elle devrait faire la joie des collégiens comme des amoureux d'une langue pas si morte que cela. Olivier Tosserie a interrogé Elisabeth Antebi, l'une des traductrices du petit Nicolas en latin.
C'était très amusant parce qu'il s'agissait à la fois non pas de réinventer le latin comme certains le font, nous avons tenu le pari de parler un latin qu'on peut trouver dans le Gaffio, à part un ou deux néologismes amusants. Et parfois, nous avons eu recours pour deux, trois mots au grec, puisque les bobos de l'époque parlaient grec, comme nous, nous parlons anglais quelquefois. Nous plaçons de l'anglais dans le latin. Ça nous a amusés.
Le travail n'a pas été trop compliqué ?
Pas du tout. Nous nous entendons bien et nous nous complétions bien puisque mon côté un peu trop fantaisiste parfois était tenu par la rigueur grammaticale, mais l'humour aussi de ma co-traductrice Marie-France Seigne.
À qui est destiné cet ouvrage ?
Cet ouvrage est destiné d'abord évidemment à des collèges et lycées puisqu'il peut servir de support assez amusant. Nous n'avions pas de support français puisque vous savez que Harry Potter, qui est pour des plus grands et qui est plus difficile, a été traduit en latin et en grec ancien. Mais le petit Nicolas, qui est quand même le summum de ce qu'on peut traduire, le summum dans le bon sens, n'avait pas été traduit en latin. Donc ces 8 petites histoires, dont nous espérons qu'elles pourront être jouées en sketch au prochain festival européen latin-grec, qui a lieu en mars prochain à Lyon. Nous espérons que nous pourrons monter des petits sketchs latin-français. Donc il est destiné d'abord aux collèges et lycées, mais il est destiné aussi à tous les nostalgiques, à tous ceux qui amusent le latin et à tous ceux qui, plus sérieusement, pensent qu'il s'agit là d'une langue européenne commune. Beaucoup la défendent comme langue vivante de l'Europe d'aujourd'hui. Nous n'allons pas jusque-là, mais nous en sommes très proches, comme le Vatican d'ailleurs, puisque nous avons des buts un peu moins pieux peut-être que le Saint-Père, mais nous œuvrons dans le même sens de pouvoir parler latin à un certain public.
Donc le latin ne sera bientôt plus une langue aussi morte ?
Mais le latin n'est pas mort, cher monsieur, vous faites s'évanouir des gens aujourd'hui. Le latin est une langue vivace, disons, c'est-à-dire sûrement pas morte, ancienne certainement. Et Jacqueline de Romilly répondait à cela quand on lui disait que le latin et le grec sont des langues mortes. Elle disait que c'est un système clos pour les langues anciennes, mais que ces langues vivent toujours dans nos cultures d'abord, mais aussi pour le grec, dans la langue grecque actuelle, même si elle a été contaminée par le démotique et des choses de ce genre, et que le latin a vécu en Europe jusqu'au moins au XVIIIe siècle, pour 19e même, pour certains pays. Rappelons la Hongrie, où c'était la deuxième langue officielle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et parlons du Vatican, je suppose que ça n'est pas si mort que ça.
Ainsi s'achève ce magazine. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.